17e édition du Festival du Livre et de la Presse d'Écologie, Felipe 2019. L'intelligence des arbres. Une table ronde avec François Bouteau, Quentin Yernaud, animée par Anthony Laurent. Une table ronde organisée avec Science Critique.
Il est 15h15, donc on peut démarrer cette conférence que nous avons choisi d'intituler l'intelligence, enfin, c'est une conférence sur l'intelligence des plantes. Son titre, c'est l'intelligence végétale pour repenser radicalement notre rapport au monde, notre monde. Nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi pour une heure de discussion François Bouteau. Vous êtes biologiste, François. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 7, Denis Diderot. Et nous accueillons également Quentin Yernaud. Vous êtes philosophe, Quentin, et vous êtes chercheur au Fonds national belge de la recherche scientifique. Et vous avez coordonné un ouvrage qui s'appelle « Philosophie du végétal » paru aux éditions Vrin en 2018. Alors, je vais faire un petit propos introductif et après, je donnerai la parole à nos deux intervenants. Et puis, pour finir la discussion, la table ronde, vous donner ensuite la parole pendant 15 ou 30 minutes. Je crois qu'on a une bonne heure de discussion ensemble. Alors, c'est vrai que les thèmes de la vie secrète, hein, j'ai encore le livre ici de Peter Wohlleben, ou de l'intelligence des plantes, ces deux thèmes-là font florès au sein de la recherche scientifique et du grand public. Hein. Ces livres, comme celui de Peter Wohlleben, La vie secrète des arbres, qui est paru en 2017, le livre du biologiste italien Stefano Mancuso, L'intelligence des plantes, ou encore celui de l'écologue français Jacques Tassin, qui s'intitule Penser comme un arbre, montre bien qu'il y a un certain engouement depuis quelques mois, voire quelques années, autour de cette notion, de cette thèse en tout cas, de l'intelligence végétale. Une thèse, comme on le verra certainement avec nos deux invités, qui est encore très controversée dans la communauté scientifique. Les végétaux, qui forment plus de 99% de la biomasse de la Terre et desquels dépendent les femmes et les hommes, pour leur survie, sont-ils vraiment intelligents? Que recouvre exactement ce qualificatif pour les chercheurs et les philosophes? Si les plantes, arbres, fleurs, légumes, algues sont capables de communiquer, de discerner formes et couleurs, d'apprendre, de se souvenir, de ressentir, de penser, de développer une forme de vie sociale basée sur l'entraide, l'échange, etc. Ces plantes ont-elles pour autant ce qu'on appelle chez les êtres humains une conscience? Ou certains scientifiques pêcheraient-ils plutôt par excès d'anthropocentrisme et de zoomorphisme? Et si, après la science, les plantes étaient reconnues par le droit comme des êtres sensibles à l'instar des animaux, le règne végétal pourrait-il alors basculer d'objet scientifique à sujet politique? Autrement dit, les végétaux représentent-ils plus que jamais aujourd'hui à la faveur de la découverte ou de la redécouverte de leur impressionnante faculté? Ces végétaux sont-ils aujourd'hui devenus des sources d'inspiration pour notre organisation sociale, notamment? Plus encore, comment tisser des liens avec ce que notamment Pablo Servigne et d'autres appellent les autres qu'humains, à l'heure où les dérèglements climatiques et l'effondrement de la biodiversité nous enjoignent à revoir radicalement nos modes de vie? Alors déjà, ma première question, c'est est-ce que vous avez lu l'un et l'autre les différents ouvrages que j'ai mentionnés, celui de Peter Wohlleben, de Stefano Mancuso, Jacques Tassin, qu'est-ce que vous en pensez? Quentin, si vous...
Donc, moi, j'ai lu l'ouvrage de Wohlleben et celui de Mancuso. Par contre, j'ai lu un ouvrage de Tassin, mais pas le dernier. Donc, sur ce dernier ouvrage, je ne pourrais pas me prononcer. Ça fait partie de ma liste de lecture. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Moi, je les ai lus en tant que philosophe et pas en tant que scientifique. Donc, mon analyse est plutôt celle d'un un philosophe plutôt que celle d'un biologiste comme M. Bouteau pourra en avoir. Cependant, ils sont intéressants à plusieurs égards. Parce qu'ils sont justement très polarisés, ils ont été très polarisés dans leur réception, notamment par une partie du monde scientifique qui les considérait comme de la mauvaise vulgarisation, pour des raisons parfois très bonnes, en raison de certaines, en tout cas pour l'ouvrage de Wohlleben, pour des questions, on va dire, qui ne répondaient pas du tout aux standards classiques de publication scientifique où on ne cite pas vraiment de sources, c'est basé sur parfois des on-dit. Des idées assez générales et puis le choix d'un vocabulaire très anthropomorphique, hein, pour ceux qui l'ont lu. Et d'un autre côté, il y avait une partie du lectorat, y compris de scientifiques, qui disaient oui, mais après tout, ce n'est que de la vulgarisation et ce n'est pas tellement un problème, en dépit de ces quelques erreurs, on va dire, d'appréciation, à partir du moment où ça peut avoir un effet bénéfique sur, on va dire, le statut de l'arbre dans notre société occidentale, où il était déconsidéré, ou bien sur le statut des végétaux, la gestion de la forêt, ce genre de choses. Et donc, plutôt à un niveau éthique ou voire politique, ça a eu des conséquences peut-être au niveau de la conscientisation d'une partie des gens qui n'avaient pas du tout idée du fait que les arbres pouvaient remplir des fonctions et avoir, on va dire, un rôle plus général que le rôle strictement naturel ou bien celui de ressources qu'on leur attribuait classiquement. Donc voilà, c'est pour la réception, on va dire, de l'ouvrage de Wohlleben. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Alors, l'ouvrage de Mancuso, lui, il est d'une nature différente puisqu'il s'intéresse davantage aux comportements végétaux. Donc, on est plus dans ce qu'une plante peut faire plutôt que dans ce qu'une plante peut faire et dans ses relations écologiques, on va dire, qui est le propre de l'ouvrage de Wohlleben, c'est lier les deux. Ici, l'ouvrage de Mancuso est intéressant parce que il s'inscrit aussi dans une optique de vulgarisation, mais d'un autre champ de recherche, qui est celui qu'on a qualifié de neurobiologie végétale. Et donc la neurobiologie végétale, qui est à lui-même un terme polémique, puisque les plantes n'ont pas de cerveau et donc pas de neurones, a suscité dès son émergence, de nouveau, des critiques de la part du monde scientifique. Alors, indépendamment de ces questions de vocabulaire, ce qui est de nouveau intéressant, avec l'émergence de ce champ, c'est que ça a permis de dynamiser toute une série d'expérimentations, d'hypothèses de travail sur ce dont étaient capables les plantes et qu'on jugeait a priori impossible pour des raisons philosophiques, historiques et idéologiques. Donc des choses comme la mémoire, l'apprentissage, des formes de sensibilité parfois insoupçonnées à certains éléments. Donc voilà en gros pour poser le contexte. L'ouvrage de Jacques Tassin, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas lu, donc là je ne peux pas encore vous dire quoi que ce soit dessus, mais Jacques Tassin étant un écologue, j'imagine qu'il y a aussi ces deux perspectives. Mais...
Oui. François, vous, comment vous interprétez cet engouement littéraire en tout cas, et scientifique aussi, autour de l'intelligence végétale ?
Alors, il y a un engouement du grand public, ça c'est certain. Alors, au niveau scientifique, je serais un peu plus mitigé quand même, parce qu'il y a comme pas mal de collègues qui restent, je dirais même pas critiques. Enfin, il y en a qui sont critiques, bien sûr, mais il y en a qui sont très en retrait par rapport au sujet, que je dirais qu'ils ne s'y intéressent pas du tout. À titre d'exemple, parce que je ne vais pas vous cacher que je suis affilié aussi au laboratoire de Stefano Mancuso en Italie, donc je le connais relativement bien, ce qui ne nous empêche pas de toujours être d'accord sur un certain nombre de sujets. Mais on a organisé à Paris le colloque de la société qui s'appelle maintenant Plants, Learning and Behavior, qui a dû changer de nom parce que plantes neurobiologie, ça crée trop de tensions dans le milieu scientifique. Et à cette occasion-là, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'aucun de mes collègues qui travaillent en sciences du végétal dans l'université et dans les deux universités autour ne sont venus. Donc, pour moi, c'était assez marquant. C'est-à-dire c'est un sujet que les gens trouvent un peu, je veux dire, fumeux, et ils préfèrent, je dirais, se maintenir à distance de ce sujet. Alors, au niveau scientifique, les scientifiques sont toujours très frileux. On sait qu'il y a un certain nombre de théories au cours de l'histoire. On peut reprendre la théorie endosymbiotique. Hein. Elle a été émise à la fin du 19e siècle et en fait, finalement, elle a été validée scientifiquement et acceptée à partir des années 60, quand d'autres preuves sont arrivées. Et donc, les scientifiques sont parfois assez frileux. Et moi, je trouve particulièrement intéressant que ce soit le grand public qui soit plutôt demandeur sur ces questions, parce que ça soulève, bien sûr, d'autres enjeux et d'autres positionnements qui me paraissent être très intéressants.
On en parlera certainement
J'imagine.
Un peu plus tard. Alors déjà, est-ce que les discussions un peu polémiques, la controverse, est-ce qu'elle déjà, elle n'est pas due au terme lui-même, au vocabulaire qu'on emploie, et notamment l'intelligence. Donc on emploie l'intelligence dans un autre domaine qui est celui de l'informatique et de la robotique, qui est également très problématique. Et dans celui du règne végétal, de la recherche, est-ce que ce n'est pas un problème d'avoir appelé, de faire appel à l'intelligence ?
Alors moi, que j'explique, parce que j'ai l'occasion de discuter ça assez régulièrement, c'est qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on appelle intelligence. Et quand on commence à demander une définition aux gens, eh bien, personne n'a la même définition. Donc, c'est le problème de ce genre de vocabulaire. Ça va être la même question pour la conscience. Il y a un article qui est sorti cette année, j'ai des collègues qui parlent de la conscience, d'ailleurs pas que chez les plantes. Ils estiment que la conscience, finalement, c'est en rapport avec la sensibilité. Et donc, finalement, on peut attribuer le terme de conscience à tout ce qui est vivant. Donc là encore, ça va dépendre de la définition qu'on pose. Et je crois que une grande partie des problèmes et des ambiguïtés viennent de ce qu'on met derrière les mots. Donc il faut commencer par donner une définition commune. Et en fait, ça, c'est déjà assez compliqué. Donc moi, je sais que quand je fais des conférences, j'affile 4 ou 5 définitions. Puis je dis aux gens, en fonction de la définition que vous prenez, placez les choses comme vous voulez. Il suffit juste de s'entendre, finalement.
Alors, quelles sont ces définitions ?
Alors, vous me demandez un travail de mémoire qui va être difficile. Donc, il y a des définitions, je ne sais plus quel dictionnaire c'est que j'avais pris, peu importe, où là, c'est très clairement sur le fonctionnement du cerveau humain et sur la conceptualisation d'un certain nombre de choses. Et donc, dans ces cas-là, il est évident que si on prend cette définition, les plantes ne sont pas intelligentes. Si on prend une définition qui avait été donnée par Einstein, je ne vais pas la donner exactement, je ne me rappelle plus exactement les termes, mais en fait, il fait rapport à la capacité d'imagination. C'est assez difficile de savoir si les plantes ont de l'imagination. Donc, une fois de plus, si on prend cette définition-là, on va la rejeter. Maintenant, si on prend une définition qui est donnée par différents auteurs sous des formes plus ou moins variées, qui va être la capacité finalement à percevoir un signal, à l'intégrer et à y apporter une réponse qui permet de solutionner un problème, eh bien, si c'est ça l'intelligence, effectivement, les plantes, dans un certain nombre de conditions, on peut considérer qu'elles ont des réactions intelligentes. Et d'ailleurs, une fois de plus, je dirais presque tous les organismes vivants, parce que c'est lié à des capacités d'adaptation par rapport au milieu. Donc le milieu, il est plein de contraintes. Si on n'est pas capable d'y répondre, forcément, on va mourir. Donc, si on prend ce genre de définition, les plantes sont intelligentes. Moi, j'aimerais juste revenir sur une définition, parce que c'est quelque chose qu'on travaille, nous, dans l'équipe à l'université. C'est la question de neurobiologie végétale. Donc, M. Yarnaud en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que ça, c'est une proposition qui a été faite donc, par Stefano Mancuso et František Baluska vers les années 2005-2006, quand ils ont créé d'ailleurs l'association du même nom. Et pour en avoir discuté avec eux de nombreuses reprises, il y avait effectivement une volonté de provocation avec ce terme. Provocation pour faire bouger les lignes, pour faire réfléchir les gens. Alors, je dirais que ça a marché peut-être au-delà de leurs espoirs, d'une certaine façon, puisqu'il y a vraiment une levée de bouclier très forte. Alors, d'une part, d'un point de vue humoristique, ils ont comme dit que neurone, en grec, ça veut dire fibre, et notamment fibre végétale. Donc, déjà, le mot avait été utilisé, on peut en discuter de ça, mais bon, je dirais que la question n'était pas là. Mais une des questions qu'on se pose à l'heure actuelle, c'est que le mot, il est choquant, parce que quand on parle de neurobiologie, on pense au cerveau humain. Et le cerveau humain, c'est effectivement quelque chose qui est hyper adapté pour un certain nombre de réponses. Mais si on regarde un peu le fonctionnement d'un neurone et à quoi il sert, un neurone, il va servir à transférer une information. Donc, il y a une stimulation de l'organisme. Le signal va être perçu et transmis via des neurones, via une signalisation électrique, vers le cerveau ou un autre organe, et il va y avoir une réponse adaptée. Et si on regarde ce qui se passe chez une plante, eh bien, un stimuli va être perçu. Il peut être transféré via une signalisation électrique qui ressemble énormément à ce qui se passe dans les neurones. Et je dirais que même il y a une diversité de réponses électriques plus importante chez les plantes qu'en l'occurrence que chez les animaux. Et il va y avoir une réponse adéquate qui va être fournie. Et en fait, il y a des papiers qui sont sortis dans les dernières années qui m'ont interpellé. C'est que si on regarde ce qui se passe sur des biofilms bactériens, va y avoir des signalisations électriques qui ressemblent énormément à des potentiels d'action. Et un biofilm bactérien, c'est quoi ? C'est des bactéries qui se mettent en espèce de, enfin, sur une surface, et il va y avoir une continuité, et en gros, il y a des messages électriques qui vont passer dans cette continuité. Donc nous, ce qu'on essaye de voir, c'est si finalement cette signalisation électrique, ce n'est pas quelque chose qui vient du vivant de façon extrêmement ancestrale, et que finalement, ces capacités, au cours de l'évolution, elles auraient été recrutées par les autres organismes, donc pour arriver jusqu'au neurosystème de l'homme, effectivement, qui est le plus performant. Mais finalement, on se rend compte que dans un champignon, il y a une signalisation électrique, dans une plante, il y a une signalisation électrique, et que les rôles sont à peu près les mêmes. Donc, un des problèmes, je dirais, c'est que la neurobiologie a été définie sur le système le plus complexe, par l'homme pour l'homme, et finalement, c'est assez difficile de réutiliser des mots qui ont été définis pour quelque chose de complexe et pour les appliquer à des modèles plus simples. La logique aurait voulu qu'on définisse les modèles les plus simples et qu'après, le Vaukelbert, on n'aurait eu aucun souci à l'utiliser pour des systèmes de plus en plus complexes. Donc ça, c'est un peu des limites qui sont liées au vocabulaire. Mais moi, ça me semble très pertinent, du coup, d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a comme sens évolutif derrière et si effectivement, on ne peut pas dire que les neurosystèmes, alors on peut choisir un autre nom si on veut, finalement, ce n'est pas une capacité de nombreux organismes vivants.
Oui. Et pour vous, Quentin, alors, en tant que philosophe, quelle est votre définition de l'intelligence ? Qu'est-ce que ça vous inspire concernant les végétaux ?
Alors, j'aurais vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que, en fait, j'ai réfléchi pas mal à ces concepts, puisque j'ai écrit un livre qui va paraître bientôt sur le comportement végétal, justement, où j'ai décortiqué plusieurs concepts qu'on utilise généralement pour parler du comportement animal, on va dire en éthologie, à savoir la mémoire, l'apprentissage, la communication et l'intelligence et la conscience qui viennent à la fin. Et évidemment, comme M. Boutot l'a dit, ça dépend énormément de l'acception de ces termes et de la définition qu'on va en donner. Et de façon encore plus générale, quand on veut leur donner un sens même technique, ça dépend de la théorie de la cognition en fait, qu'on a. Parce qu'on présuppose qu'en fait, tous ces concepts sont liés au comportement, mais de façon plus fondamentale, qui serait même liée à des comportements de type mentaux, donc à des comportements en termes de cognition, ce qui ne va pas forcément de soi pour des comportements basiques comme tout ce que j'ai évoqué, comme la mémoire, la communication, etc., ne nécessite pas forcément des actes mentaux, des représentations mentales. Or, dans l'usage qu'on fait intuitivement de ces termes, c'est bien de ça, en général, qu'il est question. Quand on parle de l'intelligence, quand on parle de la mémoire, on a l'impression que ce sont des choses qui se passent dans le cerveau. Or, on peut avoir des théories de la cognition qui sont dites minimales, qui ne font pas appel au fonctionnement du cerveau et de façon plus générale, même au fonctionnement du système nerveux, pour pouvoir rendre compte de ces notions-là. Quand on observe des effets similaires à ce qu'on appelle la mémoire dans des formes de vie qui sont dépourvues de cerveau, on est amené à dire c'est aussi de la mémoire. Du point de vue des effets, ça marche de la même manière. C'est-à-dire, c'est la capacité à stocker de l'information en fonction de sa sensibilité à l'environnement et pouvoir la restituer ultérieurement ou l'inhiber en fonction des cas. Et c'est pareil pour les autres types de concepts. Donc ça, c'est intéressant parce que ça met aussi l'accent sur est-ce qu'on veut définir ces termes en fonction de structure ou est-ce qu'on veut les définir en fonction de moyens ou de finalités, de fonctions ? Et donc, souvent, les scientifiques disent, pour pouvoir parler, par exemple, de l'intelligence ou de la conscience, il faut une structure qui serait celle du système nerveux, par exemple. C'est le sens de l'article, je pense que vous évoquiez, qui est paru récemment de Thais et al. Qui disent non, il n'y a pas de conscience chez des formes de vie non animales. Et leur argument, c'est de dire non, parce qu'il faut qu'il y ait cette structure du système nerveux, du cerveau. Et en fait, cet argument, on le retrouve au moins depuis le 19e siècle, un peu réactualisé à chaque fois, mais où le monde scientifique a tendance à défendre une spécificité en fait, de ces concepts vraiment sur les moyens physiques, matériels qui permettent de parler d'une intelligence, d'un apprentissage, etc. Or, il se fait que ce n'est pas une nécessité. On peut tout à fait envisager des définitions qui ne font pas recours à des structures précises. Et alors, on peut les appliquer à des formes de vie non animales, voire même à des bactéries. Donc oui, c'est tout à fait possible.
François Boutot, justement, quelles sont les capacités, les nouvelles, est-ce que déjà ce sont des découvertes absolument, ou alors on redécouvre certaines facultés des plantes? Et que dit la science, que dit la recherche aujourd'hui, si on veut faire un état des lieux des travaux actuels, qu'est-ce qu'on apprend au sujet de ces facultés des végétaux?
Alors effectivement, il y a pas mal de choses, notamment sur tout ce qui est les signalisations électriques chez les plantes. C'est absolument pas nouveau. Au XIXe siècle, il y avait déjà des expériences. Ça a été publié, Darwin et son fils, je crois, ont publié des travaux là-dessus. Il y a eu un Indien, Bose, qui a fait un très gros travail et qui a publié un livre là-dessus dans les années 20, si je ne dis pas de bêtises. Et il parlait déjà de système nerveux et d'intelligence pour les plantes. Hein. Donc il y a beaucoup de données qui existent depuis très longtemps. L'expérience avec des plantes et de l'électrisation la plus ancienne que je connaisse, elle date de 1789. On électrisait des pots et on regardait ce qui se passait. Et on voyait des différences entre les germinations non électrisées et électrisées. Donc, c'est pour vous dire que c'est un sujet qui intéresse les gens depuis très longtemps. Je dirais qu'au XXe siècle, il y a eu un espèce de voile sur toutes ces questions-là. Or, les raisons exactes, j'en sais rien. Disons qu'il y a, ce qu'on peut en lire, c'est qu'il y a eu la théorie des hormones, des phytohormones chez les plantes, qui a vraiment pris le pas sur beaucoup de choses. Il y a aussi certainement quelque chose qui a joué, c'est un peu l'hyperspécialisation. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle et au début du XXe siècle, on pouvait s'intéresser et travailler sur les plantes et sur les animaux en même temps. Au XXe siècle, on s'est spécialisé et de plus en plus. C'est-à-dire qu'on s'est même spécialisé sur des techniques pointues. Donc moi, je veux dire, en végétal, je connais des gens qui travaillent sur un organe, voire une molécule dans la feuille gauche en haut quand il fait beau. Donc c'est vrai que c'est un peu une question qui fait qu'on s'éloigne. Et c'est peut-être aussi un peu pour ça que je disais que j'ai un certain nombre de collègues qui ne veulent pas se positionner sur la question, parce que finalement, on est tellement spécialisé dans quelque chose qu'on se sent un peu démuni peut-être quand on veut réfléchir à ça, parce qu'on s'est tellement éloigné de la plante dans son entier, que des fois on n'est peut-être pas à l'aise pour discuter de ça. Je reconnais que moi je ne suis pas toujours à l'aise. Hein. Alors moi je m'y suis mis pour vous dire la petite histoire. Moi je suis électrophysiologiste à la base, c'est-à-dire qu'effectivement je mets des électrodes dans des plantes depuis 30 ans pour voir ce qui se passe. Mais quand j'ai commencé à faire ça, je le faisais sur un sujet qui n'avait rien à voir avec les histoires d'intelligence des plantes ou même de signalisation. En gros, je regardais la productivité pour augmenter les productions de caoutchouc naturel. Vous voyez, donc c'est pas, ça n'a rien de vraiment lié à l'intelligence des plantes. Et même pour l'anecdote, il y a 30 ans, quand on rentrait dans le labo, je mettais des électrodes dans des EVA, en fait, hein, un petit arbre. Enfin, parce que c'est grand en plantation, mais quand vous êtes à Paris, vous avez juste des petits arbres. Et je mettais des électrodes dedans, et puis je branchais ça sur mon ampli avec un haut-parleur, et je disais aux gens qui rentraient, dites bonjour à mon arbre, vous touchez les feuilles, et ça faisait du bruit. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plante, quand vous la touchez, elle perçoit le signal et elle transmet le signal. Mais en fait, moi, je faisais juste ça pour m'amuser, je n'ai pas du tout réfléchi à la question. Mais pour moi, disons que le sous-entendu qui était derrière, c'était évident qu'une plante était sensible et qu'elle communiquait. Forcément, je faisais de la bibule là-dessus, et pour moi, c'était quelque chose d'acquis. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu le sujet, après, quand j'ai rencontré en fait Stefano Mancuso, d'ailleurs, dans les années 2005-2006, et que j'ai vu pourquoi il positionnait ça, parce que moi, au début, un peu comme tout le monde, plante neurobiologie, je me suis dit, bon, il y va fort, et que j'ai commencé à discuter avec lui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Effectivement, c'est là où j'ai commencé à réfléchir au sujet. Et à m'intéresser au sujet en me disant, mais effectivement, nous, en tant que scientifiques et électrophysiologistes qui travaillent sur les plantes, il y a des choses qui nous paraissent peut-être évidentes, mais qui ne sont pas du tout évidentes, même pour les collègues scientifiques. Et ce que je reconnais, c'est que cette provocation qu'ils ont faite, je pense qu'elle a été très utile, parce que depuis, il y a énormément d'équipes et de données, justement, qui sont sorties là-dessus. Ça avait commencé un peu avant, hein, je ne veux pas dire qu'ils ont tout créé, mais vraiment, ça a donné un élan, que ce soit pour contrer les idées ou pour les améliorer. Il y a beaucoup de données qui sont sorties. Donc, il y a beaucoup d'équipes maintenant qui travaillent sur la signalisation électrique longue distance. Alors maintenant, même la mode, c'est d'avoir des startups qui viennent vous voir, ils font une jolie petite boîte, ils enregistrent plein de choses Et puis, ils sont comme tout le monde, ils ne savent pas trop ce qu'ils peuvent en faire parce qu'ils savent, ils ont des signaux, mais ils ne savent pas à quoi ça sert. Donc, c'est un peu le problème. Donc là, on accumule beaucoup de données là-dessus, mais c'est assez difficile de savoir finalement à quoi elle sert vraiment pour la plante ou comment elle va être encodée pour quoi que ce soit. Alors, il y a aussi beaucoup de travaux à l'heure actuelle qui sortent sur ce qu'ils appellent la chemical ecology. En fait, c'est tous les données autour des volatiles. Donc, une fois de plus, on sait que les plantes, elles émettent des odeurs. Hein, on connaît les parfums, les odeurs des fleurs, etc. Mais là, on s'est rendu compte qu'elles émettent de très, très nombreuses molécules volatiles différentes. Alors, on a pu le faire aussi parce qu'il y a des outils qui permettent de le faire. Hein, c'est toujours la même chose. Il faut avoir les outils pour faire ça. Elles émettent énormément de molécules volatiles et elles communiquent entre elles avec ça. C'est-à-dire qu'il y a une communication interspécifique, donc il y a des molécules qui vont s'adresser uniquement à des plantes de la même espèce, intraspécifique, pardon, il y a interspécifique, donc elles vont pouvoir communiquer entre plantes aussi. Et là, il y a des travaux qui sont assez jolis, qui sortent de plus en plus, où elles montrent que les plantes, en fait, sont capables de communiquer avec d'autres organismes, y compris les animaux. Un exemple que je cite souvent, c'est l'exemple d'une plante qui, lorsqu'elle est attaquée par une chenille qui va la brouter, eh bien, va émettre comme molécule volatile les phéromones sexuelles du prédateur de la chenille. Ce qui fait que le prédateur vient, il ne trouve pas de partenaire sexuel, mais il trouve une chenille et donc il va débarrasser la plante. Alors, je ne dis pas que c'est de l'intelligence, parce qu'une fois de plus, ça peut être de la coévolution, ces choses-là, au fur et à mesure. Mais parmi l'ensemble des données qui sortent, voilà, c'est tous ces éléments de communication et ce qui va avec de sensibilité et d'être capable d'utiliser les signaux pour interagir avec son environnement, là, il y a vraiment une richesse de données qui sort de plus en plus. Il y a pas mal de choses à l'heure actuelle aussi qui sortent sur le son. Alors, c'est là encore très compliqué parce que les protocoles sont divers et variés. Il y a des protocoles où on va mettre du 100 décibels dans un champ. Alors 100 décibels, c'est quasiment un avion au décollage, hein, donc je ne sais pas si vous voyez. Ça n'a pas forcément une pertinence physiologique pour les plantes dans la nature, mais il y a d'autres protocoles qui vont jouer sur des fréquences un peu plus précises, etc. Et je vais citer un travail, parce que j'aurais aimé avoir cette idée, en fait, je suis jaloux, de Stefano Mancuso. Son idée, ça a été... Pourquoi les plantes se priveraient d'informations qu'il y a dans l'environnement ? Et c'est vrai que, effectivement, présenté comme ça, on peut se poser la question, notamment le son. Et ce qu'il a fait, c'est tout bête, il a pris un enregistrement de rivière et il l'a fait écouter à une plante. On se dit, c'est vraiment, il faut y aller quand même. Mais et en fait, il a eu une réponse très surprenante, c'est-à-dire que la racine s'est orientée vers le son. Alors, la racine, normalement, il y a un gravitropisme, hein, c'est connu, parce qu'il faut qu'elle aille dans le sol. Et en fait, eh bien, la racine s'est orientée vers le son. Alors, ça pose effectivement plein de questions. Mais il y a pas mal de données sur le son qui sortent à l'heure actuelle, que ce soit au niveau des feuilles, il y a des trichomes qui pourraient capter des choses. Je pense que c'est un sujet en émergence. Il y a beaucoup de ménage à faire. Il faut voir ce qui est physiologique, hein, ou pas. Un des gros problèmes auxquels on est confronté à l'heure actuelle, en fait, c'est de savoir, par exemple, ce qu'une plante va vraiment percevoir comme son, notamment au niveau des racines. Parce que si vous commencez à vous intéresser à la propagation du son dans les sols, vous êtes sur des milieux hétérogènes changeants. Alors là, vous allez voir des physiciens spécialistes du son et vous êtes perdu. Et c'est très difficile, finalement, de savoir quelles vont être les fréquences, les intensités qu'une plante va vraiment percevoir. Donc là, il y a un champ qui s'ouvre, mais je crois qu'il y a pas mal d'années de travail pour réussir à mettre un peu au clair ce qu'on peut dire de tout ça.
Donc il y a encore des travaux à mener sur le sujet. Oui, dans le champ scientifique d'une part, dans le champ philosophique, Quentin, qui est comment les philosophes s'emparent de ces nouvelles thématiques et de ces nouvelles données scientifiques, notamment. Comment le monde végétal peut-il nous inspirer dans notre rapport aux autres, au monde, à l'organisation sociale ?
En fait, fondamentalement, c'est le partage historique et un peu idéologique qu'on a fait entre le monde animal, le monde vivant et l'humain qui est remis en question. Parce qu'il y a toute une série de facultés qu'on avait jugées être le propre de l'homme, hein, la conscience, l'intelligence, et j'en passe, qui se sont retrouvés avec les travaux de l'éthologie moderne, à partir surtout du XXe siècle, aussi chez les animaux. Et donc, on a été amené à réinterroger en fait, cette frontière, mais qui était sans cesse rejouée, mais qui n'a jamais été une réelle frontière, puisqu'on a toujours su que même si l'homme était à part, il était un animal. Et donc, une de mes hypothèses, c'est que la vraie frontière ontologique, pour le dire philosophiquement, enfin, qui serait vraiment fondamentale au niveau de la différence de nature entre les êtres, elle n'est pas tellement dans l'histoire de la philosophie entre l'animal et l'humain, mais elle est entre le végétal et l'animal, et ce depuis au moins Aristote, l'Antiquité grecque. Et c'est cette frontière-là, en fait, que les travaux contemporains remettent en question. Et c'est cette frontière qui nous amène les confins en fait, de cette frontière qui, selon moi, n'a pas de raison d'être biologique. Enfin, ce qu'on peut confirmer avec le paradigme évolutionniste contemporain, puisqu'il n'y a pas de rupture qui se justifie au niveau biologique entre ce qu'on appelait traditionnellement le règne végétal et le règne animal. Non, au contraire, il y a une origine commune même des animaux et des végétaux. Donc, il faut savoir qu'un être humain a en commun toute une série de gènes avec une salade, et vous avez un ancêtre commun avec un radis. Bon, ça remonte très loin, évidemment, mais il y a une origine qui ne justifie pas, du point de vue biologique, une rupture absolument claire. Alors ça a évidemment un impact sur la façon dont on va considérer l'inclusion ou pas de différentes formes de vie dans, on va dire, nos systèmes de valeurs, de façon générale. Puisque pourquoi il y avait cette distinction en fait aussi entre animal, végétal, humain? Parce que c'était une façon philosophiquement en fait de circonscrire la sphère du politique et la sphère morale. Donc l'animal et le végétal plus encore étaient considérés et le sont encore dans une large mesure, hein, et pour parfois des raisons assez évidentes, comme des ressources plutôt que comme des êtres vivants. Et donc, avec l'évolution des questions autour du bien-être animal, on s'est rendu, et de l'éthologie, on s'est rendu compte qu'évidemment, l'animal n'est pas et ne peut pas être qu'une ressource. Par contre, pour le végétal, là, ça n'a jamais vraiment été questionné. Au contraire, avec la modernité, le développement de systèmes d'exploitation forestière, etc., c'est devenu même les végétaux, les arbres, l'essence même de la ressource, quoi. C'est réduit à la matérialité du bois et l'exploitation qu'on peut en faire, que ce soit au niveau agricole ou forestier. Et donc, en fait, ici, ces expériences contemporaines sur le végétal étudié dans sa singularité, dans son comportement singulier, en tant que ce qu'il peut faire, en tant que, on va dire, organisme, ça vient perturber un peu toute cette... belle hiérarchisation et cette belle classification qu'on avait, où d'un côté il y avait ce qu'on peut faire, ne pas faire entre humains, et puis de l'autre ce qui est de l'ordre de la nature, qui est exclu de la morale, de l'éthique, etc. Et en plus, ça nous rend sensibles au fait que les végétaux peuvent aussi faire des choses justement en tant qu'organisme et ne sont plus, en tout cas, noyés dans l'espèce de la masse de la nature ou de l'environnement comme ils l'étaient auparavant, quand ils étaient uniquement envisagés que sur le plan de la ressource. Bon, évidemment, ce que je dis ici doit être nuancé, hein, parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est une façon de caricaturer un peu les charnières, on va dire, de notre pensée philosophique moderne.
Et alors justement, ce bouleversement, cette remise en cause de la classification, cette nouvelle conception du vivant, comment on peut la prendre en compte sérieusement face aux défis de l'époque, que sont notamment l'effondrement de la biodiversité et les dérèglements climatiques? Qu'est-ce que nous enseignent ces recherches en tant que citoyens, finalement?
Vaste question. Alors, la biodiversité, on n'arrête pas d'en parler, effectivement. Je pense que la grosse question, c'est ce que vient de dire M. Yarnaud sur la vision de tous les organismes en tant que ressources, essentiellement. Donc, je crois que l'enjeu à l'heure actuelle, c'est effectivement les relations humains-non-humains de façon générale, et donc les plantes. Il y a un enjeu particulier dessus à l'heure actuelle, parce que effectivement, c'est une partie très importante de la biomasse, et que si on parle de l'écroulement de la biodiversité, on a eu pas mal d'alertes sur les oiseaux, les insectes et ces criants, mais les plantes, on a un peu le même problème. Alors après, les plantes, c'est assez particulier aussi parce que, bien sûr, on en a besoin. On les utilisera toujours comme ressources. Donc, faut faire évoluer un peu nos façons de penser. Et donc, peut-être essayer d'aller puiser aussi un peu des informations, c'est pas le mot, mais peut-être des façons de voir vers des cultures différentes. Hein. Si je parle d'animisme, je pense que M. Hirano parlera beaucoup mieux que moi de toutes ces choses-là. Il y a des ontologies différentes. Dans les sociétés asiatiques, ils ont aussi un rapport aux plantes qui est extrêmement différent, ce qui ne les empêche pas de faire des cultures intensives aussi, parce qu'il faut nourrir les populations. Mais je pense que revenir vers une vision du vivant et des plantes particulières permettrait, j'ose l'espérer, d'arriver à des modes de gestion, alors que ce soit forestière, mais aussi pour les grandes cultures un peu différentes. C'est ce qu'on peut espérer, mais je suis un peu gêné pour répondre à la question parce que je ne vois pas de piste vraiment facile, si ce n'est une piste finalement d'éducation, de se réapproprier un peu le vivant de façon différente.
Est-ce que la permaculture déjà ne...
La permaculture, c'est une première approche, effectivement, mais la permaculture, on est toujours dans une approche très productiviste aussi, hein. Mais c'est très intéressant parce qu'on s'intéresse quand même à des questions d'agroécologie. Je pense qu'après la grande question sur faire évoluer l'agriculture telle qu'elle a été mise en place après pour la révolution agricole, pendant les suite à la Deuxième Guerre mondiale, là il y a des enjeux énormes parce que effectivement ça va bien au-delà de ce qu'on peut penser des plantes avec tous les intrants qu'on va rajouter, les phytosanitaires et tous les problèmes qu'il y a. Je dirais même on l'évoque rarement, mais je pense que la qualité nutritive des plantes, on peut se poser la question. Moi, il y a un exemple que je donne toujours. Si on dit aux gens, on leur parle de poulet en batterie, je veux dire, l'image qu'ils voient tout de suite des animaux dans des cages, ils voient bien le mal-être des animaux. La qualité qui va derrière, elle suit tout de suite. Les gens ne vont pas du tout se poser la même question par rapport à un champ de maïs en culture intensive. Or, quelque part, c'est exactement le même principe. On serre les plants comme ça, c'est de la monoculture, donc les risques d'infection sont multipliés par, je dis un chiffre au hasard, 100, 1000, j'en sais rien, et on les bourre d'intrants parce que les sols sont complètement appauvris. C'est exactement les mêmes logiques. Donc on peut espérer qu'on arrivera à évoluer vers des pratiques culturales un peu différentes. Alors, je n'ai pas les études aussi, mais il y a quand même des études qui sont un peu encourageantes, qui disent qu'avec des pratiques différentes, on pourrait quand même avoir des productions aussi assez importante quand même, notamment bon, l'agroécologie, bien sûr, enfin, je veux dire, la permaculture, mais aussi, rien qu'en agroécologie, on peut déjà faire pas mal de choses.
Quentin, oui, bien sûr.
Par rapport à la question que vous avez posée et dont on a discuté, je voudrais ajouter quelque chose qui est important, qui est en lien avec ce que j'ai dit avant et ce que vous avez dit. En fait, il y a une sorte de paradoxe de notre société contemporaine qui s'explique par les raisons historiques que j'ai évoquées, qui fait que d'un côté, on est dans une société où il y a une sorte d'impératif au niveau écologique et au niveau de l'éthique de l'environnement qui se développe. Mais d'un autre côté, en fait, si on interroge les gens sur le fait est-ce qu'une plante, par exemple, a un statut moral ou un statut éthique, les gens spontanément vont dire non, bah, une plante, ça ne fait pas partie de la morale. Et là, on a un paradoxe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on veut agir efficacement au niveau de l'éthique de l'environnement, ça veut dire agir efficacement au niveau des fonctionnements des écosystèmes, du fonctionnement écologique. Or, la base des environnements et des écosystèmes, c'est quoi ? En fait, c'est les végétaux. C'est les végétaux qui structurent les écosystèmes, qui permettent de recycler les nutriments, qui permettent d'assurer le cycle de l'eau, qui permettent de régénérer les sols. Donc, en fait, c'est vraiment la base sur la vie sur Terre, du fonctionnement de la vie. Et donc, le problème, c'est que si vous n'avez pas une considération, je ne dis pas qu'elle doit être la même, évidemment, que pour un humain ou un animal, hein, mais si vous n'avez pas du tout de considération pour les végétaux en tant qu'organisme, ben forcément, vous allez avoir un problème si vous voulez vous comporter selon une ligne de conduite un minimum éthique à l'égard de l'environnement, puisqu'il est à 90% d'essence végétale. Et donc, ça, c'est un paradoxe sur lequel il faut pouvoir mettre le doigt, qui est une première étape pour pouvoir, je pense, faire évoluer un minimum les mentalités. Donc, ça passe par l'éducation, comme on l'a dit. Et alors, un deuxième point qui est important, c'est que par rapport à cette tradition d'où on vient, et c'était assez flagrant dans la manière dont M. Bouteau a évoqué la question, c'est qu'en fait, on a fait du végétal et dans une certaine mesure de l'animal élevé en batterie, des objets techniques. C'est-à-dire qu'on a poussé, en fait, la nature, en réalité, des êtres végétaux, jusqu'à les réduire à des objets purement techniques qui ne peuvent fonctionner eux-mêmes que sur le modèle un peu de la manufacture avec ses intrants qui sont là pour les faire fonctionner correctement. Donc, si vous, et une assistance technique permanente et une situation de contrôle qui est absolument totale sur la façon dont est géré un champ de type industriel. Donc, vous devez. Ces plantes ont été déjà sélectionnées en plus à la base, au sens qu'elles ont été sélectionnées d'un point de vue technique aussi, pour ne fonctionner que sur un type de sol, on va dire très généraliste, avec une quantité d'engrais bien spécifique, d'une nature bien spécifique, etc. Et elles ont perdu des capacités d'adaptation qui sont propres à la plupart des vivants, et elles ont perdu aussi la capacité d'entrer en relation au sens écosystémique. Et c'est aussi en ça que la permaculture, même si elle ne s'intéresse peut-être pas, qu'elle reste productiviste, au moins s'intéresse à, on va dire, cet aspect relationnel et écosystémique des végétaux, contrairement à ce que nos approches plus, je ne vais pas dire traditionnelles, mais plus modernes au sens technique le font.
Et que dit le droit alors justement que le droit, comment considère-t-il les végétaux aujourd'hui?
La question du droit, c'est exactement un peu, enfin c'est pas exactement, mais c'est un peu la même manière que j'y répondrai un peu de la même manière, à savoir qu'il y a aussi un paradoxe dans le droit, puisque on veut protéger certaines espèces qui sont par exemple inscrites sur des listes de sauvegarde, et donc parce qu'elles sont en voie d'extinction, etc. Et donc vous pouvez absolument pas nuire à certaines de ces plantes en tant qu'espèces, mais seulement l'environnement dans lequel elles poussent n'est pas nécessairement protégé. Et donc ça, c'est tout à fait paradoxal, parce que ça veut dire que de nouveau, en fait, on a découplé cette idée fondamentale qui est une des thèses que je défends, qui consiste à dire que notre milieu est fondamentalement d'essence végétale. Et donc vous pouvez évidemment pas protéger correctement des espèces qui sont menacées si vous vous donnez pas les moyens de protéger les sols, l'environnement et les relations écosystémiques dans lesquelles ces plantes se développent. Et alors, c'est aussi paradoxal par rapport à notre vision traditionnelle de ce qu'est la morale et l'éthique et le droit, qui s'applique en théorie uniquement aux humains. Mais en fait, ce n'est pas toujours le cas, puisque vous avez par exemple des lois spécifiques pour la protection des arbres remarquables. Et donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une sorte d'exception, où on va inclure un arbre pour sa valeur patrimoniale, esthétique, etc., dans le cadre de la loi. Mais on dit que ce n'est pas vraiment en tant que plante, c'est en tant que monument en fait, qu'on le protège. Pour quelque part, continuer à rester cohérent avec cette logique d'objectivation et de technicisation qui consiste à voir le végétal avant tout comme une ressource ou comme un objet. Et donc, c'est tout à fait paradoxal parce que les effets, évidemment, sont les mêmes, à savoir que cet arbre est évidemment très, très bien protégé, vous ne pouvez pas lui nuire sous peine d'astreinte, etc. On fait des contrôles phytosanitaires de ces arbres régulièrement, etc. Donc, ils sont vraiment chouchoutés. Donc, quelque part, ils ont un statut moral. Mais on ne le présente pas vraiment de cette manière-là parce que ça ne colle pas trop avec la façon dont, traditionnellement, on a appris à envisager les végétaux.
D'accord, merci. Il nous reste encore une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Donc la parole maintenant est à vous dans la salle pour la traditionnelle séquence des questions-réponses. Alors, merci, il y a déjà une main qui se lève au fond là-bas. Alors, je ne sais pas qui passe le micro. Ouais, merci.
Est-ce que la question morale, elle ne dépendrait pas pour être intégrée dans nos valeurs, est-ce qu'elle ne dépendrait pas du fait de la constatation justement de cette interaction de l'écosystème en question, qui n'est pas seulement entre végétal, animal, humain, mais entre minéral aussi. Si on regarde la vie d'un marais, on voit que tout est en interaction dans les façons de réagir des différents éléments. Donc, est-ce que ce n'est pas la prise de conscience des interactions, à la fois dans les observations et dans les études scientifiques, qui nous met devant cette nécessité d'intégrer la question morale, c'est-à-dire de considérer que, en quelque sorte, c'est notre devoir d'humain de considérer que nous sommes entourés de toute cette vie et, on va dire, cette intelligence collective de tous les règnes. Voilà, qui fait que on doit le considérer, qu'on doit se mettre au service de cela pour faire tout ce qu'il faut pour le sauvegarder et pour le faire évoluer comme il faut.
Oui, vous avez vraiment tout à fait raison de pointer ça. C'est exactement le sens de ce que j'essaie de défendre, à savoir que c'est ce qu'on peut appeler une perspective plus écocentrique, on va dire, dans l'éthique de l'environnement, à savoir que ce qui compte, c'est pas uniquement ça, mais c'est principalement la qualité des relations écosystémiques et la préservation qu'on peut en faire. Et donc, c'est pas la préservation au sens d'une espèce d'équilibre fantasmé et idéalisé, hein. C'est au sens de la vie des écosystèmes, quoi, dont on doit pouvoir assurer une certaine pérennité, même si, évidemment, il y a des changements et qu'il faut pouvoir inclure l'homme dedans, puisque nos écosystèmes sont anthropisés depuis des millénaires. Donc, tout à fait, et le monde minéral fait intrinsèquement partie de cette dynamique. Et ce qui est vraiment intéressant quand on s'intéresse justement aux végétaux, c'est qu'on ne peut plus considérer qu'on va faire, par exemple, comme on le fait avec de l'animal, une espèce d'avatar de sujet moral humain avec l'animal. On peut le faire dans une certaine mesure, puisque en se basant uniquement sur l'idée de la souffrance et du bien-être, bah évidemment, on a des devoirs à l'égard des animaux comme on en aurait à l'égard des humains. Mais à partir du moment où on parle d'une plante, évidemment, elle ne souffre pas, on ne peut pas vraiment parler du bien-être d'une plante. Et donc, traditionnellement, bah, on s'est permis tout à l'égard des végétaux, puisqu'on les objectivait. Or, ce n'est pas parce qu'une plante n'est pas capable de ressentir de la douleur, par exemple, qu'elle ne peut pas subir des préjudices, ou que le fait de lui porter préjudice n'aura pas des conséquences plus générales sur la qualité de l'environnement et de l'écosystème. Et inversement, ça marche dans les deux sens, à savoir que la détérioration des sols va nuire gravement, porter préjudice gravement aux végétaux qui peuvent y pousser. Et donc, il faut pouvoir penser, je pense, ce lien intrinsèque entre le fonctionnement des milieux et le fonctionnement des végétaux. Et il faut aussi pouvoir se rendre compte que oui, cette logique qu'on essaye d'appliquer, enfin, je pense à raison, hein, au bien-être animal, ne peut pas s'appliquer tel quel aux végétaux, si on veut les inclure dans notre éthique. Or, c'est un peu ça qu'on entend parfois de façon caricaturale quand on parle de morale à l'égard des plantes ou d'éthique des plantes, quoi. C'est tout de suite, on invoque le cri de la carotte, comme si l'éthique végétale se réduisait à ça. Or, comme je vais essayer de vous le dire, on est sur un plan tout à fait différent.
Oui, comme ethnologue en Amazonie, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier pendant 15 ans des enseignements d'un chaman Wayana qui s'appelle Pilima. Et pour ce genre de personnes, il est évident qu'il est absolument stupide de faire de la différence entre les végétaux et les animaux. Et à partir de cette prise de conscience qu'il m'a apportée, j'ai été amené à penser qu'il y avait une mode dangereuse dans les pays occidentaux. C'est la mode qui se soucie uniquement de la souffrance animale et qui oublie totalement la souffrance végétale. Je fais allusion, bien sûr, à la mode végane. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas important, maintenant, de faire monter un mouvement végétaliste pour s'opposer au seul animalisme, et afin de comprendre que le véritable combat, ce n'est pas de dire « il ne faut pas manger ceci ou cela », le véritable combat, c'est de s'insurger contre l'agriculture industrielle, parce que l'agriculture industrielle maltraite autant les végétaux que les animaux. Et donc, c'est ça le véritable combat, et absolument pas le combat vegan, qui est totalement une impasse. Qu'en pensez-vous ?
Bien, alors, sur les véganes, c'est un sujet particulier sur lequel je ne m'étendrai pas longtemps. Je pense qu'effectivement, il y a une impasse parce qu'on regarde un sujet par le petit bout de la lorgnette alors qu'il faudrait pousser le raisonnement plus loin. Indépendamment de ça, pour revenir à ce que vous avez dit sur les positions du chaman, moi, je pense qu'il est effectivement très important de reprendre tout ce qui est agriculture industrielle. Mais il y a des choses où il ne faut pas se tromper quand on veut comparer animaux et végétaux. Je veux dire, c'est par exemple la question de la souffrance. Il y a une très grande altérité entre les animaux dont nous sommes et les végétaux. Une plante, quand elle pousse, d'une part, le premier exemple, c'est qu'elle va produire des fruits. et des fruits, notamment les fruits charnus, vous connaissez ça, on les mange, et elle le fait volontairement. C'est-à-dire qu'elle va produire une partie d'elle-même qui va être faite pour être dévorée par un animal. Et ça participe de la dissémination des graines et donc de sa survie. Donc ça, c'est une première chose. Après, une plante, c'est un organisme pour la plupart des plantes terrestres qui sont sessiles, c'est-à-dire qu'elles sont accrochées dans le sol. D'accord ? Donc, elles n'ont pas de stratégie comme les animaux d'évitement. C'est-à-dire qu'il y a un stress, quelque chose, un animal, eh ben, il souffre, pof, il s'en va. Effectivement, une plante, elle souffre et pof, elle ne s'en va pas. Donc, si elle avait le même type de souffrance, ce serait effectivement insupportable. D'autant plus qu'une plante, si vous avez des plantes chez vous, vous savez qu'on peut les tailler, les découper. Je ne dis pas que c'est bien pour elle, mais je dis qu'elle est adaptée à ça. C'est-à-dire qu'une plante, elle peut perdre 90% de son organisme et survivre. Ce qu'on ne peut pas faire à un animal. L'animal, il fuit, parce que s'il perd 90%, c'est fini, quoi. Donc, vous voyez, il y a une très grande différence entre les deux. Alors, il faut quand même intégrer ça dans toute la réflexion qu'on peut avoir sur les plantes. Ceci dit, sur la souffrance, moi, je ne dis pas non plus qu'une plante ne souffre pas. Je veux dire, je dis juste que si jamais elle souffre, c'est pas du tout le même type de souffrance qu'un animal, et que c'est une souffrance qui est adaptée à une réponse qui va être nécessaire pour elle. Moi, j'ai quand même un exemple, parce que c'est un de mes collègues qui m'avait dit ça, parce qu'on avait ce grand débat sur la souffrance. Alors, outre le fait qu'on peut faire le même jeu de définition que je vous ai expliqué tout à l'heure, moi, je l'ai fait. Hein, je suis allé sur une revue scientifique qui s'appelle Pain, donc souffrance, c'est la revue des gens qui travaillent là-dessus en médical. Je suis allé voir sur les sites de l'association. Vous prenez la définition qui donne de la souffrance, vous l'appliquez aux plantes, elles souffrent. Donc voilà. Donc là encore, le jeu des définitions, il est important. Juste pour aller un peu plus loin sur cette souffrance des plantes. Donc je vous disais, si elles souffraient comme nous, ce serait insupportable. Donc je pense qu'il n'y a pas du tout la même idée de souffrance. Par contre, elle est stimulée exactement de la même façon que nous. D'accord ? Donc, c'est juste que la réponse qui va venir ne va pas être une réponse de douleur, de souffrance comme nous, on peut l'avoir. Ça va être un autre type de réaction. Alors, mon collègue, qui était très têtu sur cette question-là, il m'avait fait remarquer quand même une chose. C'est que pour un certain nombre de fruits, donc qui vont être dévorés par des animaux, pour qu'ils mûrissent, il y a une hormone qu'on appelle l'éthylène, en fait, qui va aider à la maturation du fruit. Et cette éthylène, eh ben, c'est aussi une molécule qui est anesthésiante. On peut l'utiliser pour anesthésier des animaux. Et quand on anesthésie, on ne sent plus la souffrance. Donc, il y a des choses comme ça. Je ne veux pas vous dire que les plantes souffrent, etc. Mais je veux dire, il y a quand même des parallélismes et des choses qui se passent. Il faut quand même garder en tête une certaine objectivité, je dirais, scientifique, parce qu'il y a des questions à creuser par rapport à ça. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même un point très particulier sur les plantes. On ne peut pas considérer les animaux et les plantes de la même façon. Ce sont des organismes extrêmement différents.
Juste pour répondre en deux mots, pour embrayer avec ce qui a été dit au niveau scientifique, ce que je trouve important, peut-être par rapport à la question, la manière dont vous la formuliez, c'est pas là où je ne partagerai pas forcément votre point de vue, c'est que je ne pense pas que ce soit essentiel d'opposer en fait les luttes au niveau éthique. Je ne pense pas qu'il faille considérer que l'éthique de l'environnement ou l'éthique du végétal se fasse au détriment du bien-être animal ou inversement, puisque précisément il s'agit, comme on l'a dit, de types d'êtres qui sont fondamentalement différents. Même si, comme je l'ai dit au début, il y a une origine commune et des choses qui sont communes, il y a aussi des choses qui sont différentes. Et donc il ne faut pas... à partir du moment où on reconnaît une origine et des fonctions et des choses communes et des végétaux, gommer pour autant toutes les différences. Et il y a certaines différences qui sont importantes, notamment celle de la souffrance à partir du système nerveux. Et en plus, là où je vous rejoindrais, c'est que cette lutte, on va dire, contre une agriculture intensive ou industrielle, elle est partagée aussi par les militants de la cause animale qui dénoncent l'élevage industriel. Alors certes, plutôt en mettant l'accent, et je pense à juste titre, sur les conditions de vie insupportables des animaux, mais il n'empêche que ça participe à une lutte plus générale contre ces systèmes d'exploitation de l'environnement et des animaux. Donc voilà.
Je voudrais d'abord vous dire merci parce que je trouve que vos réflexions sur l'intelligence végétale enrichit notre propre intelligence et notamment sur le problème relationnel. On montre, je pourrais l'appliquer, je trouve intéressant que la façon dont on considère les autistes actuellement, en disant qu'ils ont une autre forme d'intelligence, ça correspond au même moment où on développe des choses sur l'intelligence végétale. Donc on a beaucoup à gagner d'écouter ce que les plantes, les animaux, pour enrichir. Jusqu'ici, on pensait que c'était nous qui pensions et le végétal subissait, mais je me rends compte, quand on vous écoute, moi j'ai envie vraiment de vous poser 1000 questions sur le relationnel. Je pense même que si on veut parler des migrants, eh bien quand on entend ce que vous dites sur l'intelligence végétale, on se rend compte que de l'autre, on peut faire des choses très intéressantes, même s'ils ne sont pas identiques. Et je trouve que c'est une ouverture magnifique d'entendre ce genre de propos. Et je pense qu'on est tout au début de se rendre compte de tout ce qu'on peut acquérir et enrichir dans la relation que nous entretenons avec les autres et avec la nature d'une façon vraiment passionnante. Ça donne envie de repenser notre psyché. Ça donne des ouvertures incroyables.
Il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à votre remarque. En fait, On a toujours pensé les rapports entre humains et les rapports avec la nature par rapport aux analogies avec le végétal. Et donc ça, c'est pas forcément nouveau, mais c'est vrai qu'on peut les redynamiser d'une manière qui est tout à fait innovante. Et juste pour l'anecdote, vous disiez oui, cette idée d'un beaucoup plus relationnel sur lequel on peut mettre l'accent, etc. Ça permet de repenser des tas de choses par analogie. Alors j'ai un collègue qui est historien de la botanique et qui me disait qu'il voyait dans des textes anciens qu'on comparait en fait les plantes invasives avec les migrants, justement. Donc il y a tout un jeu d'analogie avec cette idée que, comme on l'a dit dans la conférence précédente pour ceux qui étaient là, il n'y a pas forcément une logique qui serait la logique de la nature opposée à la logique de la culture humaine. En fait, cette logique est très théorique, mais dans les faits, on voit qu'il y a une porosité très grande et que ça fonctionne toujours par une espèce de jeu constant d'échange, de renvoi. Et finalement, j'ai le sentiment qu'on n'a pas tellement parlé de l'intelligence des plantes en tant que telle, précisément parce qu'il y a énormément de définitions possibles de ce que c'est, y compris pour l'intelligence humaine. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs théories de l'intelligence humaine et qu'on peut développer selon différentes acceptions. Et là où c'est intéressant d'étudier les végétaux, c'est de voir à quel niveau, justement, il y aurait des points communs, par exemple, ou des pistes de réflexion spéculatives sur des points communs. Alors, ce serait plutôt, par exemple, au niveau d'une intelligence corporelle et où on retrouve des formes d'intelligence humaine aussi qui ne sont pas forcément ces formes d'intelligence verbale, très élaboré, mathématique, mais qu'on peut retrouver même chez un bébé, par exemple, qui a une forme développe une forme d'intelligence corporelle et des choses comme ça. Et c'est peut-être des formes d'intelligence qui ne passent pas nécessairement par le cerveau, mais qui sont beaucoup plus liées au corps et au rapport à l'environnement. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas trop monopoliser.
Oui, moi c'est une réaction un peu épidermique. Ça me gêne beaucoup ce terme de morale, de souffrance par rapport aux végétaux. Ça me gêne parce que j'ai l'impression qu'il y a de quoi vraiment bien déraper.
Oui, oui. Alors personnellement, moi je ne parle pas de souffrance précisément parce qu'il n'y a pas de système nerveux. Donc je ne dirais jamais qu'une plante souffre précisément parce qu'on ne peut pas affirmer qu'une plante souffre. Et donc, si on parle de morale, déjà, je vais plutôt parler d'éthique, en fait, plutôt parler d'éthique de l'environnement, du coup, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement la plante en tant qu'individu qui compte dans nos rapports moraux avec elle comme on l'aurait dans les rapports individuels qu'on aurait avec d'autres personnes, précisément parce que si on réfléchit du point de vue d'une morale utilitariste, on ne peut pas lui infliger directement une souffrance. On ne peut pas lui nuire en termes de son bonheur ou sa qualité de vie comme on le ferait avec un autre être humain ou avec un autre être vivant. C'est pour ça que je ne parlerai pas personnellement de souffrance et que je ne parle pas de morale au sens traditionnel du terme, mais plutôt dans une optique générale d'éthique de l'environnement, de la même manière qu'en fait, on a des devoirs et des responsabilités à l'égard de l'environnement. Donc, on a des devoirs et des responsabilités à l'égard en fait, des végétaux dans la mesure où ils sont constitutifs de nos environnements et des relations écosystémiques. Et donc, évidemment, vous avez tout à fait raison de souligner ce point parce que ça peut être, de nouveau, pour des questions de vocabulaire, des sources de malentendus où on dit, les plantes, la morale, tout ça, on arrive vite alors à des idées un peu contre-intuitives ou des mécompréhensions.
Je voulais juste revenir un peu sur cette question, repenser radicalement notre monde. Un des problèmes pour lesquels nous en sommes là, c'est ce dualisme nature-culture. Et le fait de penser à l'intelligence des plantes, justement, ça nous remet dans une vision non dualiste. Enfin, c'est vers ça, sans doute, qu'il faudrait aller. Et je voulais savoir si vous travaillez, par exemple, avec des anthropologues, des ethnologues, etc., pour essayer de faire des jonctions et de trouver aider à faire émerger de nouvelles visions qui pourraient nous aider.
Oui, on fait ça. On essaye. Là, on est en train d'essayer d'écrire un papier justement avec des gens qui ont une approche plus anthropologiste et donc qui nous ramène vers effectivement notamment des savoirs de chamans de tribus différentes qui sont des animismes en fait, des choses comme ça. Et on essaye un peu de voir dans quelle mesure un certain nombre de données scientifiques, justement, qui sont des données de phylogénie, donc de l'histoire du vivant, ne peuvent pas nous aider à mettre un peu en regard des connaissances qui viennent d'ontologies complètement différentes. Je pense que c'est très important. Pour tenter de le faire, l'exercice est assez difficile. Et puis, on fait ça à Paris, entre gens de l'université. Donc, je pense qu'il faudra aller bien au-delà pour discuter avec des gens sur place. Alors, il y a des projets, là. J'ai un collègue, notamment, qui fait venir des chamans Kogi pour faire des diagnostics environnementaux en Europe. Parce qu'on a toujours la tendance à aller là-bas, hein, on va chez eux, on les écoute, on fait des choses. Mais lui, il inverse la question et il les fait venir avec une association pour avoir un regard, leur regard sur des choses qui se font ici. Donc, j'espère qu'on arrivera à aller plus loin dans ces réflexions. Pour moi, c'est une piste qui est très intéressante parce qu'elle nous permet même de revoir notre façon, nous, d'appréhender notre recherche différemment. C'est le principe de l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité dont on parle beaucoup, qui n'est pas simple à mettre en œuvre, mais il y a pas mal de tentatives dans ce sens-là à l'heure actuelle. Donc, on faut garder espoir qu'on avance là-dessus.
Juste sur cette question du dualisme, effectivement, il y a des sources très intéressantes à aller voir chez Descola, d'autres anthropologues. Et je pense que réfléchir du point de vue du végétal, comme je l'ai fait dans mes recherches, ça m'a amené à remettre en question en fait ce dualisme traditionnel, occidentaux, moderne, précisément puisqu'ils ont été pensés à partir d'un modèle humain et animal. Et donc, si vous pensez depuis la perspective du végétal, forcément, vous allez être amené à remettre en question toute une série de concepts qui n'ont pas été faits pour penser autre chose. Et donc, typiquement, pour vous donner un exemple, le dualisme corps-esprit, ça ne s'applique pas du tout aux végétaux, puisque, comme vous l'avez dit et comme M. Boutot vous l'a dit, on peut observer des phénomènes qu'on assimile à de la mémoire, de la communication chez les végétaux et qui passent normalement parce que nous, on considérerait l'esprit. Or, ça passe uniquement par le travail du corps des végétaux puisqu'ils n'ont pas un cerveau en tant que tel. Donc, s'il y a une forme de dualisme, elle est très différente de celle que pensait par exemple Descartes en termes de deux substances distinctes ou bien de celle de, on va dire, la pensée chrétienne traditionnelle qui voit une âme séparable du corps. Donc, il y a là, on va dire, matière à réflexion en ce qui concerne non seulement les dualismes, mais de façon plus générale, le cadre de pensée traditionnelle.
Bon, excusez-moi, je ne sais pas comment vous exprimer ce que j'ai à dire, parce que... Je vois pas pourquoi on opposerait éthique, morale, pourquoi les plantes souffriraient pas. Et puis l'histoire des véganes, c'est un faux problème. Je comprends pas tout ça. Moi, Oui, alors déjà, je ne vois pas pourquoi les plantes ne souffriraient pas. Déjà, cette idée a été amenée il y a quelques jours. Il y avait le festival Effet de Serre ici même. Je n'ai pas réussi à exprimer ce que je voulais dire, mais j'ai l'impression que quand je parle de ça, on me prend pour un hurluberlu, quelqu'un qui est complètement dans la lune. Je suis saturnien, je suis du Capricorne et tout, mais je ne sais pas, j'essaie de trouver des explications. Mais quand on me parle d'autiste, j'ai l'impression, je me demande si je ne suis pas autiste, ou si je suis trop en avance sur mon temps, ou si je. Voilà, parce que pour moi, cette idée de souffrance végétale, pour moi, elle m'a amené, je ne sais pas comment vous amenez ça, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de parler de comment de parler dans le vide, quoi, de ne pas être compris, entendu, tout ça. J'ai l'impression. Hein? Non, parce que bon, moi, j'en suis arrivé, ça fait longtemps que j'ai cette idée que pour arriver à l'alimentation, vous avez parlé de fruits tout à l'heure, et justement, les plantes, la seule partie qu'elles fabriquent qui est fait pour s'échapper d'elles-mêmes, qui est une partie comme on peut dire, c'est comme une excrétion. Et ça peut nous nourrir, et c'est ce qui est la meilleure nourriture pour nous, c'est ce qui se digère le mieux, c'est ce qui est le plus adapté pour nous. Moi, j'ai cette idée-là il y a longtemps, alors ça fait sourire, évidemment, j'ose plus en parler, tellement ça fait sourire. Mais,
pour moi,
c'est évident, quand on mange autre chose qu'un fruit, on mange le corps d'un être vivant. Quand on mange des graines, c'est comme si on mangeait des embryons, des fœtus. Enfin voilà. Il y en a qui vont plus loin que moi. Et je me sens pas jusque là. Il y en a qui vont jusqu'à dire qu'on peut ne plus se nourrir, se nourrir du prana, et que ça serait concrètement, il y aurait 26 000 personnes dans le monde. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est, mais voilà. Donc je pense, mais je sens que c'est pas par hasard que tout ça est là, puisqu'il y a la gravité de la situation, peut-être. Si vous étiez là avec, enfin, il y a plein de façons d'exprimer que la situation, elle peut être voilà. Vraiment catastrophique, donc c'est peut-être une façon de nous faire comprendre qu'il faut vraiment bouger, quoi.
Bah, juste pour répondre en deux mots, en fait, nos habitudes alimentaires, la manière dont on se comporte par rapport aux végétaux, ça dépend du cadre anthropologique et philosophique dans lequel on vit. Et si vous allez voir, par exemple, chez les pythagoriciens, hein, l'Antiquité grecque, bah, ils défendaient une vision qui était assez similaire à ce que vous dites. Donc, à savoir qu'on doit limiter au maximum l'impact qu'on a sur d'autres êtres vivants, indépendamment de la question de savoir s'ils souffrent ou pas. Et donc, ils préconisaient plutôt de manger uniquement des fruits, des graines, etc., pour ne pas détruire directement la plante. Et si vous allez voir aussi du côté de certaines cultures hindoues, comme le jaïnisme, c'est aussi toute une philosophie de vie qui consiste à envisager l'ensemble des êtres vivants dans ses rapports au monde, et donc à réfléchir à la manière dont on consomme de façon beaucoup plus, on va dire, consciente. Y compris les végétaux. Et donc, ça passe par se nourrir uniquement en dégradant ce dont on a besoin, par exemple. Donc, il est inévitable, évidemment, dans la manière dont on vit, de devoir se nourrir. Et donc, toute vie se fait au détriment d'autres vies. Et quand on se nourrit, bah forcément, même si on est végétarien ou vegan, on le fait au détriment d'autres formes de vie. La question, c'est aussi dans quelle mesure. La question, c'est aussi qu'est-ce qu'on accepte de manger ou de ne pas manger et comment ça a été produit. On peut accepter de manger certaines choses si ça a été produit dans certaines conditions et pas dans d'autres. Ou bien alors, on peut accepter ou non, simplement par rapport à la nature même de ce dont il est question. Donc en fait, ce sont des questions très complexes, mais si vous en discutez avec des anthropologues, vous verrez que dans d'autres cultures, il y a des échos avec la façon dont vous, peut-être vous vous comportez aussi.
On va prendre encore deux ou trois questions et les plus concises possibles.
Je vais faire concis. Alors, à moins que j'ai loupé quelque chose dans le débat, j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous avez parlé de l'intelligence végétale presque uniquement en termes, je dirais, intuito-personnés, c'est-à-dire la plante elle-même, et peu en tant qu'intelligence collective. C'est-à-dire qu'au-delà, je pense, de la stratégie de la plante, il y a aussi des stratégies d'espèces. Et si on va par là, on pourrait dire, par exemple, que le blé est certainement l'espèce la plus intelligente, parce qu'elle a réussi à mettre l'homme à son service d'une façon incroyable pour se reproduire sur toute la planète. Et le poulet est certainement l'animal le plus intelligent, parce qu'il a vraiment réussi. Donc, je veux dire, il y a cette notion de la plante elle-même, est-ce qu'elle parle, etc. Mais il y a aussi cette stratégie d'espèce qui me paraît être une forme d'intelligence qui a peu été évoquée.
C'est vrai que c'est une façon de voir les choses.
Et c'est une discussion qu'on a eue. Oui, le blé a domestiqué l'homme. Il a même domestiqué le chien. C'est surprenant. C'est-à-dire que si on regarde, en fait, chez les chiens par rapport au loup, et c'est vrai chez l'homme aussi, on a des gènes d'amylase qui nous permettent de digérer le blé. Chez le chien, on retrouve ça, alors qu'il n'y en a pas chez le loup. Donc, on peut très bien, effectivement, complètement inverser le paradigme et considérer que si la réussite, c'est d'avoir un maximum de reproduction et un maximum de gènes sur la planète, les plantes sont largement plus efficaces, on peut dire donc plus intelligentes éventuellement que les hommes. Mais ça, c'est vraiment tout à fait vrai. Et du coup, on peut le dire pour le riz, si on regarde. Alors, c'est une grande question qui s'est posée lorsqu'on a séquencé le génome de l'homme. Voilà, c'était au début des années 2000. On s'est dit, ah, le génome humain, ça va être merveilleux, c'est le plus gros, c'est le plus beau, tout ça. En fait, le génome de l'homme, il est beaucoup plus petit que le génome du riz. Puis comme disait, je crois, c'est Francis Allais, essayez de passer toute une saison tout nu dans une rizière, les pieds dans l'eau, vous allez voir si vous survivez. Le riz, il y arrive très bien. Donc en fonction des critères qu'on va prendre, effectivement, on peut complètement dire que les plantes sont plus intelligentes, sans problème. Alors un autre aspect aussi, qu'on n'a pas évoqué là, c'est la capacité des plantes à interagir entre elles et à former même des réseaux. Donc il y a tout le travail de Simard au Canada. Donc c'est une femme qui a travaillé sur les mycorhizes et qui a donc les mycorhizes, c'est des champignons qui sont associés aux racines des plantes et c'est le cas pour plus de 90% des espèces végétales. Et donc, en fait, vous pouvez avoir un champignon qui est associé à une plante, mais qui est associé à deux plantes. Puis une plante peut avoir plusieurs champignons. Et en fait, ce qu'ils ont mis en évidence, c'est qu'il y a des réseaux, donc, où tout, finalement, quasiment tous les organismes dans une forêt sont connectés entre eux. Donc, le réseau existe. Et en fait, ce qu'ils ont réalisé aussi, c'est qu'il y avait des échanges d'un certain nombre de molécules qui sont pas uniquement des molécules nutritives ou des sels minéraux, mais des molécules qui servent à échanger des signaux. Donc, effectivement, il y a ce qu'ils ont appelé le fameux Wood Wide Web. Donc, c'est un grand réseau forestier. Et c'est quelque chose qui est certainement très important et qui est notamment ces fameux réseaux, parce que toutes les plantes sont interconnectées. On ne l'a pas évoqué, mais dans la permaculture, c'est ça qui va être aussi très intéressant. Et c'est ce qui est perdu en grande partie dans les grandes cultures. On a sélectionné des plantes et comme on leur apporte des intrants, elles perdent toutes ces connexions. Donc, effectivement, il y a une forme d'intelligence, là encore, dans la connexion et les échanges, qui est complètement perdue dans les pratiques agricoles qu'on a mis en place depuis des décennies.
Je voudrais ajouter quelque chose, parce que votre question est fondamentale sur ce thème de l'intelligence, en fait, dont on n'a pas encore discuté, et c'est en fait la différence fondamentale que vous pointez entre est-ce qu'on parle du niveau spécifique ou est-ce qu'on parle du niveau plutôt de l'organisme. Et traditionnellement, quand on parle d'intelligence, on l'entend au niveau de ce qu'un organisme peut faire au cours de sa vie, par exemple en termes d'apprentissage, en termes d'expérience. Or, quand on parle des espèces, par exemple, qui ont colonisé la planète, etc., ce dont on parle en réalité, c'est de coévolution adaptative. Et donc, c'est des phénomènes d'adaptation qui ont lieu en vertu des mécanismes de la sélection naturelle et de l'adaptation, mais qui n'impliquent pas nécessairement un comportement, sans dire intentionnel, en tout cas dirigé, de l'organisme à travers, par exemple, ses facultés d'apprentissage ou de mémorisation de certains éléments. Et donc moi, je réserve plutôt en fait le terme d'intelligence pour ce type spécifique de comportement qu'on peut observer chez des végétaux, mais ça peut être évidemment en lien avec d'autres végétaux, à travers leur communication, à travers des échanges, une forme de coopération, etc. Mais en tout cas, ça doit, pour pouvoir parler d'intelligence, je pense que ça doit impliquer une activité propre de l'organisme et pas simplement résulter d'une activité de l'adaptation à travers le fait qu'un organisme naît bien adapté en vertu des gènes dont il a hérité. Et après, évidemment, on peut faire preuve de certaines choses, mais de façon non différenciée par rapport à un autre organisme, puisque c'est seulement en vertu du bagage génétique dont il aurait hérité ou des adaptations qui ont eu lieu sur des millions d'années. Donc, je pense que c'est important de faire cette distinction parce que précisément dans les débats sur l'intelligence, elle n'est pas souvent faite et du coup, ça amène les gens à parler de choses qui sont très différentes et à argumenter sur des plans qui sont eux-mêmes très différents. Est-ce qu'on argumente au niveau de l'évolution ? Est-ce qu'on argumente au niveau du comportement de l'organisme ? Est-ce qu'on argumente au niveau de l'organisme seul ou bien de ses capacités dans ses relations avec d'autres organismes ? Et en fait, tout ça, ce sont des niveaux qu'il faut pouvoir distinguer parce que les réponses qu'on va apporter en termes notamment d'intelligence vont être différentes.
Comme vous avez parlé tout à l'heure d'interconnexion, je voulais vous poser la question par rapport aux travaux de Clive Baxter que vous devez connaître, puisqu'il a travaillé sur l'intelligence qu'on a traduit en français comme intelligence émotionnelle, mais en fait, lui, il appelait ça communication primaire. Et donc, c'est la capacité que les plantes ont de ressentir, on va dire, l'intention qui est à leur égard, de leur faire du mal ou pas, et de vivre, alors je ne vais pas rentrer dans la notion de souffrance, mais en tout cas un stress, puisqu'il avait équipé toutes les plantes, et puis après bien d'autres organismes vivants, de ces fameux capteurs qui étaient utilisés pour savoir si une personne mentait ou pas, puisque ça leur générait un stress. Voilà, donc j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus, sachant que là, on ne parle plus de biochimie, on parle au niveau d'une conscience, puisque c'est même avant qu'on les touche qu'elles vivent ce stress.
Alors oui, je connais les travaux de Clive Baxter. En fait, le problème, c'est que les travaux de Clive Baxter n'ont jamais pu être reproduits et validés par la communauté scientifique en dépit des nombreuses tentatives qui ont été faites à cet égard. Et donc, il y a vraiment un gros problème épistémologique à ce niveau-là. C'est qu'on ne peut pas considérer que ces travaux sont avérés, en fait. Mais Mancuso n'a pas reproduit directement les travaux de Clive Baxter, à ma connaissance. Oui, mais en fait, vous voyez, ça, c'est un problème de sociologie des sciences. C'est que ces travaux ont été... C'est comme la rumeur, une fois qu'elle se propage, c'est difficile de l'arrêter. Donc, en fait, les travaux ont été... ces travaux n'ont jamais pu être reproduits, mais comme ils ont vraiment fait sensation à travers l'ouvrage de Baxter, ils ont sans cesse été répétés. Et ils ont pris de l'ampleur, etc. Mais la communauté scientifique a eu beau démentir qu'ils n'arrivaient pas à pouvoir démontrer une quelconque validité de ces travaux en dépit des tentatives de reproduction. Le fait qu'il y a eu un tel succès de cet ouvrage que vous pouvez encore acheter, il est encore édité, etc., a contribué à faire grossir un peu cette théorie. Et paradoxalement, c'est aussi ça en fait qui a fait beaucoup de tort aux travaux scientifiques ultérieurs sur les comportements végétaux, puisque les scientifiques, les biologistes qui travaillaient en physiologie, en biochimie, hein, comme vous disiez, sur des aspects beaucoup plus spécifiques du comportement végétal, avaient très peur d'être associés à ces cas, on va dire, un peu de supercherie scientifique. Et donc, voilà.
Juste pour continuer là-dessus, En tant qu'électrophysiologiste, je peux vous dire que les plantes sont effectivement extrêmement sensibles à beaucoup de choses. Moi, ce que je dis toujours, si vous voulez que je fasse une publication scientifique facile, je mets trois électrodes sur une plante, je saute autour, j'éteins la lumière, j'allume la lumière, je fais un courant d'air, je fais tout ce que je veux. Vous aurez des réactions, vous aurez des enregistrements. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'en ai parlé avec Stéphane Mancuso et on publie ensemble. Hein, donc, je sais ce qu'il fait. On n'est pas du tout là-dedans et on se pose énormément justement de questions parce qu'on enregistre plein de signaux. On essaie de faire ça dans les situations les plus contrôlées possibles et on a beaucoup de mal à avoir des interprétations pour pas mal de signaux. Donc, je suis aussi très, très prudent par rapport à un certain nombre de données. Moi, je vous dis, j'ai été contacté notamment par plusieurs startups parce que c'est la mode, ça marche beaucoup. Et les gens mettent au point des systèmes d'enregistrement et ils enregistrent plein de choses, mais on ne sait pas du tout interpréter et à quoi ça correspond. Donc là, il y a vraiment un gros travail à faire pour être clair avec ce qu'on peut dire de ce qu'on enregistre. Parce qu'avoir des données, c'est une chose, être capable de les expliquer, c'est pas toujours facile, quoi.
Oui, juste pour rebondir sur ce que vous dites, ce que la dame a dit au sujet du stress des plantes, elle a dit « je ne parlerai pas de souffrance, mais au moins de stress ». Il est l'évidence même que c'est le fondement du rapprochement du règne végétal avec le règne animal, où vous avez raison, on doit envisager sous un angle général et non pas en séparant les deux sphères. Parce que finalement, ce stress dont on parle, c'est finalement ce que chez nous on appelle l'empathie. Et c'est ce qui est à l'origine de toute civilisation. Tout processus de civilisation part de cette capacité à vouloir vivre en collectivité pour se protéger les uns et les autres contre les attaques. Une civilisation où il n'y a pas d'empathie, c'est une civilisation de bourreaux. C'est plus une civilisation, d'ailleurs. Et je voulais juste dire une dernière chose. Le monsieur a parlé d'intelligence collective, donc j'en reparlerai pas. Mais il y a quelque chose de très important en matière d'intelligence des plantes, c'est la résilience. Vous coupez un ver de terre ou un végétal en deux, il repousse tout seul après. Et cette résilience-là, cette capacité à toujours se reconstruire au-delà des traumatismes et des attaques qu'on a pu subir dans une vie, dans une vie d'être humain ou dans une vie de végétal ou d'animal ou d'un autre animal, c'est finalement le symbole même de l'intelligence et de la reproduction de la vie au-delà des, enfin au fil des siècles quoi. C'est ça l'intelligence finalement, c'est la vie. Donc cette résilience, une société est résiliente, c'est l'intelligence collective. Un individu qui se casse une jambe, il est résilient aussi, il va tout faire pour retrouver l'usage de ses deux jambes, quoi. Donc, et chez les végétaux, c'est exactement pareil. Donc, c'est ce qui nous relie tous ensemble dans la sphère du vivant, il me semble. Enfin.
Alors, moi, je n'interpréterais pas ça comme ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les plantes, il y a des stratégies de vie qui sont extrêmement différentes des animaux. Leur capacité à continuer à vivre alors qu'elles ont été découpées en morceaux, effectivement, elle est importante, mais c'est lié au fait qu'elles sont mobiles. Donc, là, il y a une dimension, c'est pas l'intelligence, c'est une dimension adaptative historique, en fait, c'est de l'évolution. Donc, si les plantes n'avaient pas mis au point ce genre d'adaptation, de survie, eh ben, elles auraient disparu très rapidement. Donc, pour moi, ce n'est absolument pas une forme d'intelligence. Là. C'est vraiment inhérent à cette forme de vie. Je veux dire, il ne faut pas oublier une chose chez les plantes aussi, c'est que, juste pour que vous compreniez bien, cette stratégie d'être fixe, elle peut se le permettre. Pourquoi ? Parce qu'elle fait la photosynthèse. On n'a pas employé le mot là, mais la photosynthèse, c'est un processus fondamental. Elle est capable donc de créer ses propres molécules organiques avec l'énergie du soleil et le CO2 qui est dans l'air. Et puis, il lui faut de l'eau, les sels minéraux qu'elle va pomper avec ses racines. Donc, en fait, c'est pour ça qu'elle peut se permettre d'être sessile. Et que, du coup, d'un point de vue évolutif, elle a adapté énormément de choses pour résister en restant au même endroit. Mais donc, pour moi, ce n'est pas du tout les mêmes formes de résilience, c'est pour employer le terme que vous avez utilisé.
Juste pour embrayer, donc, ce que j'essayais de dire un peu dans le même sens, c'est que c'est important de pouvoir distinguer les différents concepts et la manière dont elles les appliquent. Et quand on crée des équivalences un peu trop générales, par exemple vie et intelligence, ben on perd la spécificité de ce dont on essaie de parler. Puisque si toute vie, finalement, est intelligente, mais dans un sens qui est lui-même pas clairement défini, on arrive vite à créer des amalgames. Et puis... ça peut être compliqué pour s'entendre après au niveau conceptuel de ce dont on parle. Et le choix du vocabulaire est important à ce niveau-là parce qu'il est, il est jamais neutre non plus. Par exemple, quand vous parlez d'empathie, bah, moi, ça me fait très fort penser à une capacité qui est spécifiquement humaine parce qu'elle est liée aux émotions et à des états mentaux liés à ces émotions. Donc, on est dans un registre à travers le langage qui tout de suite suscite une forme de glissement qui est peut-être... éloigné de ce dont un scientifique comme M. Boutot parle quand il parle de phénomènes de coévolution adaptative qui permettent aux plantes d'avoir cette forme de résilience. Donc, je vois ce que vous voulez dire, mais en même temps, j'essaie d'être prudent pour pouvoir conserver, on va dire, la rigueur conceptuelle qui est nécessaire au débat sur les concepts.
Merci. Merci beaucoup. Merci déjà à vous d'être venus aussi nombreuses et nombreux cet après-midi. La table ronde prend fin. Je remercie chaleureusement François Boutot et Quentin Hiernaud d'être venus. Merci à vous. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci.
17e édition du Festival du livre et de la presse d'écologie, Felipe 2019.